Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
Bonjour à tous, bienvenue dans Economia, bienvenue dans ce rendez-vous hebdomadaire de l'économie, de la finance. Nous avons eu un sommet du G7 cette semaine avec des analyses encore et toujours sur l'impact de la guerre ukrainienne sur l'économie mondiale et la sécurité alimentaire. Des engagements ont été pris malgré tout pour une aide financière et militaire continue à l'Ukraine. L'objectif étant d'aboutir d'une part à aider le régime de Kiev et d'autre part aboutir à un plan de réduction de la dépendance au gaz russe d'ici 2025. Des promesses d'investir aussi dans les secteurs des énergies renouvelables et des technologies propres ont été formulées. En Chine, l'augmentation des dépenses publiques dans les infrastructures et dans les projets de construction. Il s'agit de travailler à un plan global, national, à l'aune de cet immense pays. Travailler aussi sur la réduction d'impôts pour les entreprises, de telle façon à ce que les niveaux de croissance que la Chine a connus avant la crise de la Covid-19, et bien que Pékin réussisse à renouer avec cette politique de croissance économique qui a considérablement ralenti, par exemple au deuxième trimestre. On était quand même à 0,4% de ralentissement, ce qui est un taux le plus bas qui n'avait pas été enregistré depuis des décennies. Il reste encore des inquiétudes en Chine concernant l'efficacité du plan de relance qui a été décidé par les autorités du pays. Il est souvent jugé incertain. Le plan pourrait aggraver même, dit-on, la dette publique qui déjà commence à être tout à fait élevée en Chine, alors que jusqu'à présent, c'est vrai que la Chine n'avait pas de problème de dette. On continue avec les prévisions de croissance du FMI, un léger ralentissement par rapport à ce qui était espéré pour 2024. En fait, ce sont des révisions que le FMI fait assez régulièrement. Bon, globalement, on est parti sur une projection de croissance de 3,6, ça c'est le point de départ, mais en fait, au fur et à mesure que l'année s'écoule, il y a des calculs qui sont faits et on se rend compte qu'on va être un peu au-dessus, un peu en dessous, et là, a priori, on devrait être un petit peu en dessous de 0,2. C'est très très peu, c'est vrai, mais c'est quand même indicateur que la guerre en Ukraine, encore et encore, on y revient, la guerre en Ukraine a des impacts précis, clairs, nets, sur le coût de l'énergie, sur les denrées alimentaires, sur le resserrement monétaire qui est aujourd'hui est prévu et appliqué par les banques centrales avec des taux directeurs qui sont toujours extrêmement hauts. Alors effectivement, il s'agit de lutter contre l'inflation, mais cela coûte extrêmement cher à tous ceux qui veulent investir, à tous ceux qui veulent prendre des crédits. L'inflation, c'est vraiment aujourd'hui la bête noire de toutes les économies mondiales et notamment en Turquie. La Turquie qui aujourd'hui n'arrive toujours pas, malgré la reconduction à l'occasion des dernières élections de l'élite politique. Il y a aujourd'hui toujours l'équipe Erdogan qui est au pouvoir, qui avait pris des engagements pour lutter contre la poussée inflationniste dans ce pays. On va en parler avec Didier Billon, qui travaille à l'Institut de recherche internationale et stratégique, l'IRIS, Paris. Didier Billon est un des grands spécialistes français de la Turquie, de l'économie turque. On a vraiment le sentiment, Didier Billon, que cette question de l'inflation, en fait, la Turquie n'arrive pas à s'en sortir.
Ah, il est vrai que c'est le phénomène le plus saillant, c'est-à-dire que cette inflation, d'après les chiffres officiels, je dis bien officiels, elle est depuis maintenant plusieurs années évaluée à peu près 65%. Donc c'est énorme, c'est énorme. En France, par exemple, nous avons un taux d'inflation qui est autour de 5%, et on sent que les Français souffrent à cause de ce phénomène. Donc quand on imagine qu'en Turquie, il est de 65% et depuis plusieurs années, selon les chiffres officiels, c'est effectivement probablement le problème central, parce qu'évidemment, ça a des conséquences en chaîne au niveau social et au niveau politique. Alors il y a bien d'autres problèmes pour l'économie turque, mais c'est symboliquement celui qui effectivement peut caractériser les difficultés actuelles que traverse l'économie turque.
Alors c'est un problème ancien, on a eu souvent des déclarations à l'occasion de rendez-vous électoraux qui se sont plus ou moins bien passés à la fois pour l'opposition, à la fois pour le pouvoir. On a quand même forcément un déclaratoire de la classe politique turque pour résoudre ce problème. Tout le monde est absolument d'accord, il faut absolument le résoudre. Par rapport à ce qui a été proposé, qu'est-ce qui a marché ou qu'est-ce qui n'a pas marché et pourquoi ?
Pour le moment, les solutions qui ont été mises en place sont des solutions de très court terme, et vous avez raison de rappeler que, au hasard, c'est systématiquement au moment des campagnes électorales, alors notamment celle de l'année dernière, il y a juste un an à propos des législatives et surtout de l'élection présidentielle, et puis plus récemment de l'élection, des élections municipales. À chaque fois, des mesures ont été prises, et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu, il faut le reconnaître, de gros efforts de la part des autorités turques pour augmenter le salaire minimum. Et c'est assez, les conséquences sont assez paradoxales, parce qu'évidemment, cela a permis en partie, je dis bien en partie, de juguler les effets de l'inflation. Mais comme ce sont surtout les classes les plus défavorisées qui ont bénéficié de ces augmentations de salaire minimum, on s'aperçoit qu'il y a eu un tassement des inégalités entre les couches les plus paupérisées et les classes moyennes. Parce qu'en fait, les classes moyennes sont les plus lésées de ce système inflationniste, dans le sens où elles n'ont pas vu leurs revenus augmenter. Et cet aspect très important qui est souvent sous-estimé permet de comprendre d'ailleurs les résultats électoraux des dernières municipales. Parce que les classes moyennes, elles se retrouvent principalement dans les grandes villes, dans les grands centres urbains. Or, c'est justement dans les grands centres urbains que le parti de M. Erdogan a connu les plus vives difficultés et a été battu dans les principales villes du pays, comme on le sait. Donc, vous voyez, les aspects économiques et les mesures économiques qui ont été mises en place par le pouvoir, qui sont souvent des solutions de très court terme pour répondre justement aux besoins électoraux, n'ont pas eu les conséquences escomptées. Je pense que le pouvoir l'avait mal calculé. Alors certes, ça a permis, de, encore une fois, de tasser les effets inflationnistes auprès de la population la plus paupérisée, mais les classes moyennes n'ont pas bénéficié de telles mesures et elles l'ont fait savoir quand elles ont été votées, en général, contre le parti AKP, le parti de M. Erdogan.
Mais de quoi a besoin la Turquie ? Est-ce qu'elle a besoin de simples orientations politique avec des déclinaisons économiques et sociales, d'accord ? Ou est-ce qu'elle a besoin d'une refonte ? Enfin, c'est un peu caricatural de dire ça, mais est-ce qu'elle a besoin d'une refonte totale du système ? Parce que c'est quand même un problème qui est récurrent. C'est-à-dire, on peut pas l'arrimer au Covid, on peut pas l'arrimer à la guerre en Ukraine. C'est vraiment récurrent. De quoi aurait besoin la Turquie ?
Alors, il y a deux besoins principaux. Il y a un aspect immédiat qui est plus conjoncturel qu'autre chose. C'est ce qu'on appelle les investissements directs étrangers. Ça, c'est un besoin que l'on constate depuis de bien nombreuses années. Le problème, c'est qu'au vu de la situation politique en Turquie, la dérive liberticide du pouvoir, eh bien, de nombreux investisseurs hésitent beaucoup à investir en Turquie. Donc là, il y a un premier déficit en termes d'investissement direct étranger. Et au passage, c'est d'ailleurs pourquoi le président Erdogan a promu depuis maintenant environ 3 ans une politique de réconciliation avec un certain nombre de pays de la région Moyen-Orient et notamment des pays arabes du Golfe, les Émirats Arabes Unis, l'Arabie Saoudite principalement, de façon à tenter d'attirer des capitaux et des investissements saoudiens et émiratis. Ça, c'est l'aspect qui est à la fois conjoncturel, parce qu'il y a un besoin immédiat, mais qui envoie des problèmes structurels. Parce qu'en réalité, bien évidemment, comme toujours, le problème, il est structurel. Pendant des années, pendant peut-être 25 ans, depuis 25 ans, l'économie turque a connu des périodes d'accélération de son taux de croissance. Je rappelle qu'au tournant des années 2010-2011, les taux de croissance avoisinaient les 10% annuels.
Ce qui est énorme.
Énorme, absolument énorme. C'était le premier pays au sein de l'OCDE en termes de taux de croissance. Le problème, c'est que cette croissance spectaculaire, elle était surtout basée sur ce qu'on appelle le BTP, le bâtiment et les transports, les aménagements publics. Alors, il y a eu une politique de grands travaux, incontestable, et tant mieux, au demeurant, en ce qui concerne les infrastructures en Turquie. Il y a eu évidemment une politique immobilière extrêmement volontariste, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Sauf qu'une économie moderne, et je rappelle au passage que la Turquie fait partie du G20, donc c'est une économie parmi les plus importantes au niveau mondial, mais une économie moderne qui s'inscrit dans la mondialisation ne peut pas se contenter d'un taux de croissance uniquement dû au BTP. Oui. Et donc le problème, c'est le grand défi qui se pose au gouvernement actuel, qui n'a pas le courage ou la volonté de prendre les mesures, c'est d'une part de modifier de fond en comble le système de formation, d'instruction, parce qu'il faut absolument que des cadres de haut niveau, que des ingénieurs de secteurs de pointe notamment, puissent être formés, mais cela implique alors une modification radicale des choix en matière éducative. Et deuxièmement, mais le deuxièmement est lié au premier, c'est la nécessité de faire un gros effort en ce qui concerne ce qu'on appelle les produits à haute valeur ajoutée, c'est-à-dire des produits de haute technologie sur lesquels la Turquie, mis à part l'exemple des drones...
Absolument, ils ont du mal là-dessus, sur l'intelligence artificielle, absolument.
Ouais. Ils sont très en retard. Mmh. Pour une raison simple, c'est que ça nécessite des investissements à la fois financiers, mais aussi humains. Mmh. Donc je pense que c'est ça la contradiction fondamentale, structurelle de la Turquie. Est-ce qu'un seul gouvernement ou un autre gouvernement fera les choix nécessaires qui nécessitent une vision à au moins moyen terme? Ça, c'est pas de la politique clientéliste, ce n'est pas de la politique à court terme, ce n'est pas de la politique économique pour les prochaines élections. Non, c'est un plan sur 5 ans, 10 ans qui est nécessaire si la Turquie veut maintenir son rang au sein du G20 et escompte pouvoir passer dans ce qu'on appelle les pays à haut revenu. Ils n'en sont pas là. Mais vous voyez qu'il y a à la fois des problèmes conjoncturels et aussi fondamentalement des problèmes structurels. Alors, le tout aggravé, bien évidemment, parce qu'il faut toujours le rappeler, c'est que la Turquie est totalement dépendante en matière de ressources en hydrocarbures de l'étranger. C'est-à-dire que la Turquie, qui est une économie qui est moderne, alors avec ses difficultés, ses défis, évidemment oui, mais c'est une économie qui s'est considérablement modernisée, donc qui est avide en hydrocarbures, et le sol turc ou le sous-sol turc ne possède pas ces hydrocarbures, donc nécessité d'avoir des contrats avec la Russie en premier lieu, ce qui explique d'ailleurs la politique de Erdogan en ce qui concerne le conflit russo-ukrainien, mais aussi bien évidemment en direction de l'Azerbaïdjan, de l'Irak, il y a une visite du président Erdogan en Irak, dont un des aspects est évidemment le maintien et l'accentuation des livraisons d'hydrocarbures irakiens, etc., etc. Donc là, il y a ce problème qui ne dépend pas de la volonté politique de quiconque en Turquie. C'est une donnée naturelle. Il faut qu'il fasse avec, mais ça implique des choix géopolitiques de première importance et qui sont très contraignants.
Avec cet élément qui est intéressant que vous rappeliez sur la difficulté pour des pays comme la Turquie de passer le cap de l'intelligence artificielle et des nouvelles technologies, c'est quelque chose qu'on voit dans quasiment tous les pays du monde arabe, avec des exceptions sur le Golfe, où il y a vraiment des efforts qui sont faits. Mais c'est vrai que là, on va dire, c'est un gap structurel, même dans l'organisation même des sociétés, des entreprises. On ne peut plus fonctionner comme dans les années 80-90. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'esprit entrepreneurial, les sociétés ont complètement changé. Et c'est vrai que c'est dur pour la Turquie de s'adapter à ce changement.
Oui, je suis tout à fait d'accord. J'évoquais les enjeux de formation, les enjeux de fabrique de produits à haute valeur ajoutée. Il y a deux autres aspects qui renvoient à ce que vous venez d'évoquer. Mmh. C'est la productivité au travail, qui n'est pas encore prise à bras le corps, et bien sûr l'organisation des structures même de production, ce qui renvoie entre autres, pas uniquement, mais entre autres aux questions de l'intelligence artificielle. Alors non seulement ils sont très très en retard, mais en termes conceptuels, ils ne réfléchissent pas encore véritablement à ce défi qui se pose pourtant avec acuité.
Absolument. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a une place, on sait ce qu'est la place politique de la Turquie. Celle-ci a des intérêts en Syrie, très clairs, dans les régions qui lui sont favorables, où elle a même des troupes. On sait que, par exemple, la livre turque s'exprime en Syrie. On sait qu'il y a une profondeur stratégique dans l'espace turkmène qui existe aussi, qui est une réalité. Aujourd'hui, la Turquie est une puissance économique auprès des territoires où elle a en partage cette langue et cette culture turque.
Non, alors il y a eu beaucoup d'illusions d'abord en direction du Caucase et de l'Asie centrale, notamment au moment de l'implosion de l'Union soviétique, donc ça remonte maintenant à presque 35 ans, c'est pas tout à fait hier, et moi je me souviens parfaitement qu'en Turquie il y a eu cette vague d'illusions, ils étaient en train de retrouver lorsqu'ils appelaient leurs cousins d'Asie centrale, et ils se sont crus sans mauvais jeu de mots les rois du pétrole, c'est-à-dire qu'ils étaient persuadés que grâce à cette proximité soi-disant historique et culturel et linguistique au demeurant, eh bien, ils allaient pouvoir s'implanter très durablement dans tous ces pays d'Asie centrale. Sauf que les pays d'Asie centrale, qui sortaient de 70 ans de tutelle russe, ne voulaient pas repasser sous les fourches caudines d'aucune puissance. Premier facteur. Deuxièmement, la Turquie avait totalement sous-estimé le poids maintenu de la Russie. On peut le constater encore aujourd'hui. Et puis d'autres concurrents qui, bien sûr, ont pointé rapidement le bout de leur nez. Je pense notamment aux Chinois, aux Indiens, mais plus lointainement aux Japonais, aux Coréens. Donc tout cela a rendu nécessaire pour la Turquie qu'ils revoient un petit peu à la baisse leur projection sur l'Asie centrale.
Oui.
Mis à part les relations très étroites avec l'Azerbaïdjan, qui sont une donnée structurelle très importante, parce que non seulement il y a la proximité géographique, il y a la proximité linguistique, là on peut vraiment le dire ainsi, mm-hmm. parce que aussi moi j'ai entendu des Turcs dire ben, on peut se faire entendre jusqu'au Xinjiang, jusque chez les Ouïghours.
Oui, oui,
les Ouïghours ont une langue qui est d'origine de la même origine que le turc. Bon, tout ça est un mythe. En réalité, un citoyen d'Istanbul qui s'en rend au Xinjiang, il ne se fera pas comprendre. Mais avec l'Azerbaïdjan et le Caucase, là, oui, il y a une véritable proximité. Et puis, alors, ce que vous évoquiez en Syrie, effectivement, il y a une minorité turkmène, mais au vu de la situation de la Syrie aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y a une influence de ce point de vue de la part des Turcs, puisque nous savons qu'en Syrie, l'obsession turque, c'est la question kurde, qui n'a pas de rapport et qui n'a pas de dimension économique, mais qui est une dimension à la fois géopolitique et bien sûr politique. Ça renvoie à ce que je considère moi comme le défi principal de la Turquie, le défi politique principal
de
la Turquie, à savoir la question kurde.
Mais excusez-moi de vous couper la parole, Didier Billon, c'est juste pour vous dire aussi que dans les zones nord, notamment au nord-ouest, la province d'Idleb, qui est tenue par le groupe HTS, qui est une zone qui est rebelle, c'est la monnaie turque qui est qui est en cours. Donc c'est quand même une je sais pas si on peut dire que c'est une économie qui s'exporte, mais en tout cas il y a une profondeur de champ qui est singulière.
Non, mais je pense que c'est une illusion d'optique. Ce que vous dites est factuellement juste, je ne le nie pas du tout, mais déjà ces régions, alors à la fois les zones kurdes du nord-est et la région d'Idleb au nord-ouest de la Syrie sont totalement sinistrées économiquement, donc ce n'est pas ça qui peut modifier en quoi que ce soit les capacités exportatrices de la Turquie. Ça, c'est un mythe à ce stade en tout cas.
D'accord.
Et vous le savez bien, le président syrien, Bachar el-Assad, se refuse à tout contact officiel, en tout cas, et tout rapprochement avec la Turquie, tant qu'il y aura des troupes turques sur le sol syrien. C'est son exigence, et sur ce point, il ne transigera pas. Ça, c'est la première chose.
Oui.
Par ailleurs, sur la monnaie qui corrompt, mais ça, ce n'est que temporaire, c'est un effet d'opportunité qui... Je le souhaite pour la Syrie, dès qu'elle se sera véritablement stabilisée et qu'elle reprendra le chemin de la croissance, et j'espère le plus tôt possible sera le mieux pour les Syriens, cette anomalie disparaîtra comme par enchantement. Donc je pense que c'est véritablement une question d'opportunité très conjoncturelle qui n'aura pas de conséquences dans la durée.
Alors on va parler d'un vieux, un très 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 vieux serpent de mer. On en a déjà parlé avec vous à plusieurs reprises au cours de ces dernières années, Didier Billon. C'est l'Union européenne, c'est la candidature turque. On a le sentiment qu'on ne va jamais en sortir de cette histoire-là. Et ce qui est quand même assez étonnant, c'est que les Turcs sont revenus dessus. Alors, on ne sait jamais quand ils reviennent dessus, s'ils y vont, si c'est une posture, s'ils y croient encore. En fait, on en est où dans ce dossier qui n'en finit pas ?
On n'en est pas.
Oui, c'est clair au moins.
Et chez les Européens et chez les Turcs, on vit sur une sorte de mythe. C'est-à-dire que quand on s'adresse à des dirigeants européens, certains disent « oui, la question de l'adhésion n'est pas réglée ». Ça, c'est le moins qu'on puisse dire, mais elle n'est pas non plus abandonnée. Mmh. Ah bon, d'accord. Il est vrai que les fameuses négociations d'adhésion sont de facto stoppées depuis au moins 2016, donc ça fait maintenant 8 ans, quoi, en gros. Mais que des jurés, ce processus de négociation existe toujours. Donc il y a une forme là d'hypocrisie, mais la réalité des faits désincarne totalement la perspective d'adhésion. Non, je pense qu'en réalité, le processus est donc complètement gelé désormais, et que la question ne se pose plus en termes d'adhésion ou de pas adhésion, pour le moment, pour le moyen terme. C'est-à-dire que pour ma part, et on en a déjà parlé, j'ai été un partisan engagé il y a fort longtemps de l'adhésion de la Turquie au sein de l'Union européenne pour une série de raisons. Si on me pose la question aujourd'hui, je pense que ça, c'est une question qui n'a plus de sens. C'est-à-dire que ça ne se pose plus en ces termes-là. Alors on peut s'en féliciter, on peut le regretter, mais c'est un fait. Donc je pense que la véritable question, c'est oui ou non, poursuit-on sous une forme différenciée nos relations avec la Turquie ? Oui ou non, nous, Européens, considérons-nous que la Turquie est un partenaire incontournable d'un point de vue économique, d'un point de vue géopolitique, particulièrement. Je pense que oui, ça je le maintiens. Mais donc la question n'est plus en termes d'adhésion ou de non-adhésion, c'est en termes de refondation de nos relations. Je suis toujours un partisan du resserrement des relations avec la Turquie. Mmh. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais très honnêtement, la relation à l'Union européenne s'est en réalité considérablement dégradée au niveau politique et géopolitique. Mais dernière chose, au niveau économique, constatons qu'en termes d'exportation et d'importation, pour revenir aux questions économiques, l'Union européenne est toujours le premier partenaire.
Voilà, justement, c'est ça que je voulais vous demander, Didier, c'est qu'on a comme le sentiment que ce contexte d'adhésion, de processus d'adhésion, c'est une chose, mais que en parallèle, il y a la réalité des intérêts mutuels qui fait que finalement, alors dites-moi si on pêche par excès d'optimisme, mais finalement, ça marche plutôt pas mal quand on...
Ça marche moyennement, en réalité. Moi, j'étais en Turquie il y a une dizaine de jours. J'ai pu rencontrer des hommes d'affaires français qui sont implantés en Turquie. Oui. Ils sont désespérés. C'est-à-dire qu'à la fois, bon, je ne vais pas pleurer sur leur sort, ils continuent à faire des affaires. Et ma foi, ils ne sont pas individuellement à plaindre. Mais ils considèrent que dans ce pays, il y aurait tellement plus de choses à faire en termes de contrats, de partenariats économiques, qu'ils considèrent que ce potentiel économique exceptionnel est grevé par les enjeux politiques et le vent mauvais qui souffle au sein de l'Union européenne à propos de la Turquie, clairement. Alors, qui est de plusieurs natures, et je n'absous pas les responsabilités des Turcs eux-mêmes ou des dirigeants turcs, mais au total, nous savons bien que ce dossier turc est depuis des années et malheureusement instrumentalisé par des forces politiques au sein de l'Union européenne, au nom du repli de l'Europe sur elle-même, au nom de l'islamophobie, bon, enfin, etc. On pourrait là aussi disserter longuement. Et donc, les hommes d'affaires qui, pour beaucoup d'entre eux, perçoivent l'importance et l'intérêt de ce pays pour leurs propres affaires, eh bien, considèrent que ce qu'ils font n'est pas à la hauteur de ce qu'ils pourraient faire en raison de blocages de nature politique qui le regrettent profondément.
Et toute dernière question, elle est d'ordre géopolitique. On a vu à l'occasion de la crise ukrainienne combien l'emplacement géographique de cette Turquie qui est à cheval sur l'Europe et sur l'Asie, entre l'Europe de l'Est et l'espace euro-méditerranéen. Est-ce que de cette géopolitique extrêmement tumultueuse que nous vivons, on va dire, je sais pas, on va dater ça, allez, depuis le début de la... Finalement, depuis la fin du Covid, on va dire que c'est vraiment... C'est quasiment infernal. La Turquie, quand même, elle arrive à s'imposer comme étant, au sens premier du terme, une puissance de cette région-là, de cet espace-là. On peut vraiment dire ça.
Je pense qu'on peut le dire. Alors, évidemment, ce n'est jamais linéaire. Il y a des avancées, il y a des reculs, il y a des défis, il y a des contradictions, et puis il y a des erreurs que font les dirigeants turcs eux-mêmes, au demeurant, il ne faut pas les sous-estimer non plus, mais au final, quand on fait une sorte de tableau de la situation géopolitique régionale, on s'aperçoit que sur nombre de dossiers, alors qu'ils soient directement géopolitiques au sens de conflits entre l'Ukraine et la Russie, par exemple, que ce soit pour des raisons géoéconomiques, je pense notamment à la question des hydrocarbures et des voies d'acheminement des hydrocarbures du Moyen-Orient ou du Caucase vers les marchés européens, la Turquie s'impose comme un partenaire qui est véritablement incontournable. Et donc, de ce point de vue, ne mythifions pas son rôle. Là aussi, c'est limite. Mais objectivement, ils ont une place qui véritablement est irremplaçable. Et ils pourraient profiter grandement de la situation. Ils le font partiellement. Sur le dossier russo-ukrainien, je considère qu'ils n'ont pas fait de faux pas, qu'ils se disposent plutôt bien, qu'ils ont pu avoir un rôle positif, notamment quand il y a eu le contrat d'acheminement des céréales. Mm-hmm. Ça, c'était très positif. Et l'ONU, M. Guterres lui-même, a reconnu le rôle indispensable qu'avait eu la Turquie dans le processus de négociation, sauf que la Turquie se monte un peu du col. Parfois, Erdogan a répété à plusieurs reprises que c'est la Turquie qui parviendra à faire la paix entre la Russie et l'Ukraine. Évidemment, ça ne se posera pas en ces termes. Je pense que la Turquie sera un des paramètres qui permettront, là aussi souhaitons-le dans les meilleurs délais, de parvenir à un cessez-le-feu puis un processus de négociation, mais ce sera un pays parmi beaucoup d'autres.
Merci beaucoup Didier Billon pour cet éclairage tout à fait passionnant sur cette économie turque qui est essentielle parce que c'est vraiment le pays qui est d'une centralité même au Proche-Orient, également sur la zone Europe, vraiment à la jonction de tous les continents. C'est tout à fait passionnant. On continue juste un mot avant de terminer cette économie. Quelques mots pour vous dire que Veolia, que l'on connaît bien d'ailleurs au Maroc, hein, pour sa déclinaison dans le nord du pays, sa déclinaison étant à Mendis, Veolia a annoncé l'acquisition du groupe Suez pour 11,3 milliards d'euros, créant ainsi un géant mondial de l'eau et des déchets. Cette fusion a été approuvée par les autorités européennes de la concurrence. Et puis Microsoft a finalisé son acquisition de Activision Blizzard pour la modique somme de 68,7 milliards de dollars. Somme absolument colossale qui permet à Microsoft de créer l'un des plus grands éditeurs de jeux vidéo dans le monde. C'est vrai qu'aujourd'hui, le jeu vidéo est vraiment une dynamique de marché tout à fait conséquente et Microsoft entend vraiment jouer un rôle de leader dans ce secteur-là. Voilà, c'est la fin d'Economia. On aura le plaisir de se retrouver la semaine prochaine pour de nouvelles infos éco, pour de nouvelles infos financières. Je vous souhaite à tous une excellente semaine à l'écoute de Radio Méditerranée Internationale.